Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 13 mars 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « Netanyahou, fondateur de la culture du mensonge ». Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran exhorte la communauté internationale à mettre fin au génocide à Gaza. Les embuscades de la résistance infligent de lourdes pertes à Israël. Le Hezbollah lance 12 opérations contre des sites israéliens. Et puis un adolescent palestinien tué par un snipeur israélien en Cisjordanie occupée. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la poursuite de la guerre génocidaire du régime israélien contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée pendant le mois sacré de jeûne de Ramadan présageait le désastre du siècle. Hossein Amir Abdollahian a fait ce commentaire dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au chef du Conseil de sécurité de l'ONU, au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères des pays islamiques et d'autres États du monde. Le chef de la diplomatie iranienne a condamné l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre fin à l'agression brutale contre les territoires palestiniens et a appelé à des mesures sérieuses pour aider les habitants de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Avec le début du mois sacré de Ramadan et alors que nous constatons l'incapacité persistante du Conseil de sécurité de l'ONU à mettre fin à la guerre contre la bande de Gaza et la Cisjordanie en raison des actes d'obstructionnisme clairs et délibérés de la part des États-Unis pour empêcher toute action efficace de ce Conseil par un recours excessif au droit de veto, il est absolument nécessaire que la communauté internationale trouve des moyens pratiques et sérieux pour soutenir le peuple palestinien, arrêter immédiatement les attaques militaires contre la bande de Gaza et trouver une issue à la situation désastreuse actuelle, a-t-il déclaré. La poursuite du génocide dans la bande de Gaza et à Rafah et les crimes de guerre en Cisjordanie, ainsi que l'empêchement par le régime israélien de l'acheminement de l'aide et de la nourriture à la bande de Gaza et le recours à l'arme de la famine contre les habitants de Gaza dans le but de prolonger le génocide et le massacre des femmes et des enfants ont tiré la sonnette d'alarme sur l'avènement d'une tragédie humaine sans précédent du siècle, a-t-il ajouté. Le régime israélien poursuit délibérément la politique de destruction complète de Gaza en imposant un siège total sur le territoire palestinien. Il est désormais évident que l'un des objectifs dangereux poursuivis par le régime israélien en ce qui concerne le siège total de la bande de Gaza est le blocage de l'aide humanitaire immédiate et de créer les conditions d'un effondrement social et civil, de détruire l'identité palestinienne et de faire émigrer de force les habitants de la bande de Gaza et de Cisjordanie vers les pays voisins, a-t-il encore indiqué. Cette approche prouve que ce régime criminel poursuit délibérément une politique de destruction complète de la nation et de l'identité palestinienne, a prévenu Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie iranienne. Les embuscades de la résistance infligent de lourdes pertes aux militaires israéliens à Khan Younes. Les embuscades de la résistance de Gaza infligent de lourdes pertes. La résistance palestinienne à Gaza poursuit ses opérations d'envergure en riposte aux raids des forces d'occupation israéliennes contre la bande de Gaza au 158e jour de la guerre. Divers groupes de la résistance palestinienne s'engagent dans des affrontements intenses avec les forces d'occupation israéliennes sur plusieurs axes, notamment à l'est de Khan Younes et à l'ouest de celle-ci, dans la ville de Hamat. Cela intervient au milieu de la poursuite des tentatives des forces d'occupation israéliennes de fortifier leurs positions et d'avancer dans la bande de Gaza, rapporte la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin. Les brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont confirmé avoir tendu une embuscade à deux forces d'infanterie israélienne dans le complexe des tours El, qui se situe dans la ville de Hamad, et les ont abattus à bout portant avant que les hélicoptères israéliens ne repèrent et évacuent leurs corps. Les combattants palestiniens ont aussi tiré un obus artisanal Al-Yassin 105 sur un char israélien Merkava à Hamat, toujours avant de le détruire. Ils ont fait exploser deux engins explosifs antipersonnels contre deux forces d'infanterie israéliennes dans les complexes, toujours des tours K et J de la ville de Hamad. Pendant ce temps, les brigades Al-Quds, la branche militaire du mouvement du djihad islamique de la Palestine, ont revendiqué une explosion dans un appartement de la ville de Hamad où 6 militaires israéliens ont été pris au piège. Elles ont tiré des obus de mortier contre des points de rassemblement des militaires israéliens dans le centre-ville de Hamad et des obus RPG sur un véhicule militaire et un bulldozer dit neuf israélien. Sachez d'autre part que le Hezbollah intercepte un drone israélien et lance 12 opérations contre des sites ennemis. La résistance islamique au Liban a mené une douzaine d'opérations contre les forces d'occupation israéliennes et intercepté un drone israélien violant l'espace aérien libanais. Le Hezbollah libanais continue depuis 5 mois de pilonner les points et les positions militaires israéliens le long de la zone frontalière entre le Liban et la Palestine occupée. Il a mené ce mardi 12 mars 13 opérations au total contre l'occupation israélienne, dont l'interception d'un drone hostile dans l'espace aérien libanais. Il a publié des images de ses combattants qui ont attaqué le mont Adir dans le nord de la Palestine occupée avec un missile de précision. De nombreux soldats israéliens ont fui la zone à la suite de cette attaque. La résistance islamique a également lancé des roquettes Burkan sur le site militaire de Bronit, le site militaire de Zebdin dans les fermes occupées de Sheba et le site militaire de Roveissat à l'Alam sur les hauteurs occupées de Kafar Shouba. En Cisjordanie occupée, un adolescent palestinien a été tué en martyr, je vous le disais, par un sniper israélien. Au moins 4 Palestiniens ont été tués lors de raids nocturnes en Cisjordanie dans un contexte de violence croissante et d'attaques des forces israéliennes depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, assiégée début octobre de l'année dernière. Des soldats israéliens ont tué par balle un jeune Palestinien et ont blessé 5 autres lors d'un raid à grande échelle dans la ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée, tôt mercredi 13 mars, a rapporté l'agence d'information palestinienne Wafa. Les sources ont noté que les forces militaires israéliennes ont pris d'assaut la cour de l'hôpital gouvernemental de Jenin et ont ouvert le feu directement sur un groupe de civils qui se trouvaient devant le service des urgences, faisant plusieurs blessés. Le personnel médical de l'hôpital a déclaré que Rabbi al-Nursi, âgé d'une vingtaine d'années, avait succombé à ses graves blessures. Quelques heures plus tôt, les forces israéliennes avaient pris d'assaut la ville de Jenin et le camp de réfugiés adjacent, déclenchant des affrontements et causant d'importants dégâts aux infrastructures publiques. La trêve à Gaza n'est pas proche malgré le ramadan, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. Nous ne sommes pas proches d'un accord, ce qui signifie que nous ne voyons pas les deux parties converger sur un langage susceptible de résoudre le désaccord actuel sur la mise en œuvre d'un accord, a déploré al-Ansari mardi 12 mars. Il a toutefois ajouté que les négociations indirectes impliquant des médiateurs qataris, égyptiens et américains se poursuivaient pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans les limites du ramadan. Majed al-Ansari a fait part de l'entretien du premier ministre qatari avec Barbara Lahav, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires du Proche-Orient à propos des derniers événements à Gaza. Dora met l'accent sur la nécessité de l'entrée d'aide humanitaire à Gaza, ajouté al-Ansari, avant de préciser que les couloirs maritimes ne peuvent pas être aussi efficaces que les passages terrestres. Enfin, les nouveaux navires de guerre du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran participent à des exercices navals combinés dans le nord de l'océan Indien. Trois navires de guerre de fabrication iranienne récemment intégrés à la flotte navale du corps des gardiens de la révolution islamique ont participé à un exercice naval combiné à la pointe nord de l'océan Indien et de la mer d'Oman et ont mené d'importantes manœuvres maritimes. Les exercices navals de deux jours dans le cadre de la ceinture de sécurité maritime 2024 ont débuté mardi 12 mars. Les unités navales et aéroportées de la marine de la République islamique d'Iran ainsi que leurs homologues chinois et russes participent aux exercices. Des délégations navales d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Sultanat d'Oman, du Pakistan et d'Afrique du Sud ont participé aux exercices comme observateurs. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Netanyahou est le fondateur de la culture du mensonge. Yair Lapid, le chef du mouvement d'opposition dans l'actuel cabinet du régime israélien, s'en est pris au premier ministre Benjamin Netanyahou et a une nouvelle fois souligné la nécessité de recruter des haredim sur fond d'intenses pressions sur l'armée et de manque de main-d'œuvre pour les grands défis qui attendent Israël. Netanyahou est le fondateur de la culture du mensonge, a déclaré l'ancien premier ministre et chef du mouvement d'opposition de l'actuel cabinet du régime sioniste lors de la récente réunion de la Knesset. Selon le journal régional Rayalian, Yair Lapid a attaqué Netanyahou lors d'une réunion des membres de la faction Yesh Atid et l'a traité de menteur. Le premier ministre va tromper les haredim et tenter de présenter des plans généraux qui ressemblent à des solutions, mais ce n'est pas le cas, a-t-il ajouté. En réponse au grand rabbin du régime israélien, Isaac Youssouf, qui a déclaré que si le service militaire était rendu obligatoire pour les haredim, nous achèterons de billets et quitterons Israël ensemble, il a souligné. Si les jeunes haredim ne s'enrôlent pas dans l'armée, Tel Aviv n'a pas non plus le droit de donner davantage d'ordres aux réservistes qui ont servi 70, 90 ou 120 jours cette année. Lapid a dit au grand rabbin sioniste : est-ce que quelqu'un à l'étranger vous donne ce que nous vous avons donné ici ? Vous n'avez aucune mission là-bas ? Al-Mayadin avait déjà rapporté que Netanyahou avait promis aux Haredim d'augmenter leur allocation ministérielle et de leur accorder des privilèges de discrétion si leur budget spécial était annulé par la Cour suprême. La question de la conscription des Haredim qui ont échappé au service militaire sous prétexte d'étudier la Torah a toujours été une question complexe dans la société israélienne et est devenue la cause d'une division politique sur la loi sur la conscription. 66 000 Haredim ont été exemptés du service militaire ces dernières années. Depuis 2017, les sionistes ne parviennent pas à trouver un accord sur le service militaire des Juifs orthodoxes. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, n'a pas épargné lundi par les critiques de Lapid. Le chef de l'opposition au sein du cabinet de Netanyahou a précisé que le plan proposé par Gantz n'inclut pas les Haredim. Nous ne pouvons plus nous leurrer, il n'y a pas assez de force à Gaza, tout comme il n'y a pas assez de force en Cisjordanie. S'il y a un conflit dans le nord, nous n'avons pas assez de soldats pour le conflit, l'armée est petite et les défis sont grands, a-t-il renchéri.
Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de Presse TV, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Notre débat du jour étant la mobilisation internationale concernant la cause palestinienne. On rappelle qu'aujourd'hui étant le premier jour de Ramadan là-bas en Palestine, que les gens en Palestine souffrent donc déjà d'une famine, de la faim, d'un manque de médicaments. Et c'est ainsi que les Palestiniens vont rentrer dans ce mois béni du Ramadan. D'où l'importance de cette mobilisation internationale. Tout d'abord, nous allons vous proposer, donc, comme le veut notre format débat, un reportage préparé à cet effet, vous montrant la mobilisation internationale à travers donc, le monde, les différents pays, différentes capitales. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités qui sont spécialistes des sujets du Moyen-Orient. Tout de suite, donc, je vous propose notre reportage.
De la Bosnie au Canada, des rassemblements massifs ont eu lieu en soutien à la Palestine. Alors que la guerre menée par le régime d'Israël est entrée dans son sixième mois et que la famine sévit dans l'enclave palestinienne, des manifestations se poursuivent dans le monde entier pour condamner le génocide en cours dans la bande de Gaza assiégée. De nombreuses villes du monde ont été samedi 9 mars le théâtre de manifestations massives pour dénoncer le génocide en cours à Gaza qui a fait plus de 30 000 morts parmi les Palestiniens. La plus grande manifestation a eu lieu à Londres, le cinquième rassemblement pro-palestinien de cette année où plus de 450 000 personnes se sont rassemblées devant l'ambassade américaine en brandissant des drapeaux et des banderoles appelant à un cessez-le-feu et à la fin de l'agression. La ville de Manchester a également été le théâtre d'une manifestation massive de soutien à Gaza. Des milliers de manifestants à Paris pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. À Paris et en France, des dizaines de milliers de personnes ont aussi manifesté en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Répondant à un appel du collectif Urgence Palestine, soutenu par la France Insoumise, LFI, les manifestants qui brandissaient des affiches clamant SOS Gaza des drapeaux palestiniens sont partis de la place de la République et ont achevé leur marche vers 17h sur la place de la Bourse. Les scandales Stop Génocide, Israël Apartheid, Boycott ou encore Free Palestine. Le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, la tête de liste du parti aux élections européennes, Manon Aubry et Rima Hassan, qui figurent aussi sur cette liste, étaient présents dans le cortège. À Lyon, environ 750 personnes, selon la préfecture d'Oran, ont manifesté dans le centre-ville derrière une grande banderole levée du siège criminel de Gaza. Une marche pour la paix de 36 km, la distance entre la ville de Gaza et Rafah, a aussi été organisée au départ de Strasbourg. À Nantes, 800 personnes ont manifesté dans le calme, selon la préfecture de Loire-Atlantique. La maire PS de la ville, Johanna Roland, a écrit sur X, présente à la manifestation à Nantes cet après-midi pour demander un cessez-le-feu immédiat. 30 000 morts et la famine à Gaza. Le massacre des populations civiles doit cesser. En Suède, des manifestations similaires se sont déroulées dans plusieurs villes, dont Borås, Kristianstad et Göteborg. Des milliers d'Italiens ont participé à une manifestation nationale à Rome organisée par le syndicat CGIL contre la guerre en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et d'une paix juste au Moyen-Orient. Les manifestants ont marché depuis la Piazza de la Repubblica jusqu'à Forum Imperio en brandissant des drapeaux syndicaux et palestiniens. À Jakarta, la capitale de l'Indonésie, des milliers de personnes se sont rassemblés pour condamner la poursuite des massacres du régime sioniste dans la bande de Gaza. Des manifestations similaires ont été organisées dans de nombreuses villes d'Allemagne et du Danemark, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Séoul, la capitale sud-coréenne, Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, et Tunis, la capitale de la Tunisie, ont été aussi le théâtre de manifestations en faveur de la Palestine. En Amérique du Nord, à Ottawa, la capitale du Canada, les manifestants pro-palestiniens ont également dénoncé les crimes et l'occupation du régime sioniste. Ils ont appelé à la fin de la politique de deux poids deux mesures de Tel Aviv, réclamant la traduction en justice du régime sioniste pour le massacre de milliers de Palestiniens, en particulier des enfants.
Nous revoilà donc ensemble dans les studios de Presse TV. Tout de suite, donc, nous allons introduire nos deux experts, nos deux invités pour ce débat du jour. Je vous propose donc de les découvrir. Je dis bonjour à Madame Aïssar Midani, spécialiste et experte des questions du Moyen-Orient, notamment sur les questions syro-françaises. Madame Midani, bonjour et ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à votre invité et à tous les téléspectateurs.
Merci, Madame Midani. Alors, notre deuxième étant Monsieur Amrouni, juriste et s'y connaissant en droit international. Bonjour, Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir avec nous ici sur la question palestinienne, sur le droit humain à se défendre, le droit humain d'avoir un territoire. Merci de nous avoir rejoints.
Bonjour à vous, bonjour à votre chère invitée, Madame Midani, à tous nos téléspectateurs. Joyeux toute notre participation pour et surtout pour la population palestinienne et surtout à Gaza.
Merci Monsieur Amrouni. Alors comme vous l'avez compris, oui, c'est le premier jour du Ramadan pour plusieurs pays dans le monde, dont notamment donc la Palestine. Alors la Palestine qui doit non seulement souffrir de la famine, mais doit également faire face à ce mois béni du Ramadan qui se fait dans des conditions extrêmement difficiles. Madame Midani, alors en sachant que vous avez vous-même vécu et vous avez vu vous-même en Syrie ce que peut faire une famine, parce qu'on n'oublie pas que la Syrie a subi le terrorisme, a subi également des sanctions internationales dues à la loi César qui ont provoqué une famine parce que les blés et le pétrole sont toujours volés. Madame Midani, à quoi font face à l'heure actuelle les Palestiniens selon vous?
Écoutez, les Palestiniens font face à des temps très durs parce qu'en même temps, il faut quand même savoir qu'on est au 157e jour de cette agression israélienne contre le peuple palestinien, depuis le 7 octobre 2023, L'électricité est coupée, les vivres sont coupés, le combustible n'arrive pas, les passages sont fermés. Donc, il y a une pénurie en tout, donc pas seulement en alimentation, pénurie en eau potable, pénurie en matériaux et matériel sanitaire et médical. Même les premières nécessités, les choses de première nécessité comme les produits d'entretien, etc., tout manque. Il faut savoir quand même que le Gaza était sous blocus depuis 2007, hein, parce que, s'il vous plaît, pour le monde dit démocratique, les élections ont abouti à l'élection d'une équipe qui ne plaît pas à l'Occident et qui ne plaît pas aux Américains. Donc, ils ont mis tous blocus, Gaza sous blocus, hein, suite à ces élections qui s'étaient avérées complètement démocratiques et qui se sont déroulées sous surveillance d'équipes internationales. Donc, en fait, depuis le 7 octobre, le bombardement, nuit et jour, n'a pas arrêté. Les destructions des maisons, les destructions des hôpitaux, les destructions, on ne le répète jamais assez, en fait, la violation de toutes les lois internationales a été effectuée. En même temps, donc, affamer la population, c'est aussi une arme de guerre. Détruire les maisons de la population, c'est une arme de guerre. Détruire les moyens, les écoles, les centres d'hébergement, les lieux de culte, tout est visé à Gaza. Et en fait, c'est un véritable génocide. Je tiens à dire quand même que la Cour internationale de justice qui a été saisie et qui a effectivement donné un rapport en donnant un délai de un mois pour que Israël empêche et arrête tout génocide, et ça n'a pas été fait. Au contraire, aujourd'hui, il se double de tuer les gens par la famine. Donc c'est une mort lente et avec les blessures, avec les manques de nourriture, avec tout en fait, les manques de tout. Et tout ça au vu et au su du monde entier. Je voudrais saluer quand même l'Afrique du Sud qui a recommencé aussi une requête auprès de la Cour internationale de justice, lui demandant de faire quelque chose face à ce génocide qui se déroule sous les yeux du monde, qui a été déploré et condamné par 153 pays du monde entier, et la décision a été arrêtée par le veto américain. Donc 153 pays qui ont demandé le cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis ont arrêté tout ça par un veto américain au profit d'Israël. Voilà, c'est donc le spectacle, le paysage global est assez incroyable.
Merci Marie-Denis pour cette mise au point précise de la situation palestinienne, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Pour eux, Monsieur Amrouni, on sait que les Européens, le monde occidental a commencé à vouloir faire parvenir par le biais de l'air, donc une aide humanitaire qu'on dénonce comme étant pas suffisante, comme étant une goutte d'eau toute petite par rapport aux besoins de 2 millions d'individus, de 2 millions de citoyens, de civils non armés. Et on indique aussi qu'ils ont pour projet de faire un port mobile au niveau donc de la mer de Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez les expertises et les annonces faites par les gouvernements? Alors, Monsieur Amrouni, on n'entend pas, on vous entend pas. Dans tous les cas, on revient vers vous, alors Mme Imidani, le temps que M. Amrouni revienne. Madame Imidani, je vais vous poser la même question hein, que je viens de poser à M. Amrouni. Vous avez entendu parler comme nous donc, de ces fameux ports, mobiles, du fait que ce soit également qu'il y aurait des projets cachés derrière ces ports mobiles et que l'aide humanitaire proposée ne sera pas suffisante pour les 2 millions de citoyens palestiniens.
Écoutez, d'abord, en fait, on n'a pas commenté ce qui concerne, là, c'est le largage cette décision de larguer les aides humanitaires par parachute, qui est absolument abjecte, hein, parce que, en fin de compte, elle vise à tuer les gens avec les aides, d'une part, et d'autre part, elle vise à ne jamais ouvrir les passages. Donc, ça oblige. Et donc, ne jamais discuter avec les forces qui sont en présence, c'est-à-dire la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, les organisations qui, en fait, organisent la distribution sur le terrain. Et ça oblige aussi, ça fait qu'il se passe aussi de tous les rapports avec l'Égypte. Donc, ça neutralise aussi l'Égypte, quelle que soit sa position par rapport au passage de Rafah. Et en fait, ça permet à continuer le diktat israélo-américain sur les passages terrestres et en prétextant aussi que, de toute façon, les aides, elles peuvent parvenir par le ciel. Ajoutez au fait que c'est encore une quantité encore plus petite et plus infime qui puisse passer, mais avec aussi une scénographie hollywoodienne qui va dorer le blason, redorer leur visage et leur blason en disant voilà, on envoie quand même les aides aux Palestiniens, on ne va pas les affamer, on ne veut pas les tuer, on va leur envoyer au compte-gouttes quand même des aides.
Merci, voilà. Mme Imidani. Monsieur Amrouni est de retour, cette fois avec le micro. Monsieur Amrouni, vous vous rappelez de ma question concernant donc cette aide humanitaire, cette construction de ports. Mme Imidani a parlé du côté terrestre, de tout ce qui a été fait pendant les deux dernières semaines, notamment les envois par air, qui a blessé et même tué des Palestiniens. Certains camions ont été passés par Rafah. Il y a eu des tirs directs sur la population qui était affamée, fait de plus de 110 morts, sachant qu'il n'y a plus d'hôpitaux là-bas, donc on peut s'attendre à ce que les chiffres soient plus importants, puisqu'il y a eu 700 blessés sur le nombre de blessés, donc on peut s'attendre à ce que les chiffres montent. Monsieur Amrouni, qu'est-ce que vous pensez des derniers projets dits humanitaires proposés par le monde occidental ?
En tout cas, il faut saluer la résistance palestinienne, la population de Gaza, parce que la guerre aujourd'hui, elle est contre la population. L'armée israélienne a échoué de remporter cette guerre. Elle a échoué militairement, elle a échoué au niveau du renseignement, on n'a arrêté aucun leader de la résistance, ni politique, ni militaire. Elle n'a même pas réussi à libérer un seul prisonnier. Donc,
un manque de bonne communication avec M. Amrouni, malheureusement. Alors, Mme Imidani, on repasse vers vous. M. Amrouni est de retour. M. Amrouni, continuez. On vous entend.
Donc, la guerre aujourd'hui, elle est contre la population de Gaza. On veut l'affamer. Il y a un blocus économique important de tuer les gens par famine, d'une part. Et d'autre part, on veut favoriser les mercenaires palestiniens à Gaza que l'ennemi israélien veut faire passer l'aide humanitaire par ces gens-là, par ces groupes. Et donc, la fermeture de Rafah.
Il y a un vrai problème hein, de
humanitaire acheté par mer, ça a deux sens. Le premier sens, les alliés, c'est-à-dire les États-Unis, comme la France par exemple, ne font plus confiance à l'État de Netanyahou. Et ça, c'est un bon signe, c'est un signe positif. C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes ne font plus confiance à l'État sioniste. Et donc l'Amérique, les États-Unis montrent qu'elle peut acheminer de l'aide humanitaire, à la population de Gaza sans passer par l'autorité d'Israël. Sauf que l'armée israélienne, Netanyahou, veut contrôler si vous voulez, tout ce qui se passe à l'intérieur de Gaza. Et donc, l'objectif réel de l'armée sioniste, c'est démanteler les réseaux de la résistance au niveau militaire, et ça, il n'a pas le moyen aujourd'hui, mais il est passé à une nouvelle étape, c'est-à-dire démanteler le réseau de la résistance au niveau politique et au niveau social. Donc, il veut mettre une autre forme d'organisation politique et une autre forme d'organisation sociale. Est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas. Aujourd'hui, d'après la résistance palestinienne, la résistance va très bien. Elle a les moyens de lutter encore pour 6 mois. Donc, l'armée sioniste ne pourra pas remporter aucune victoire militaire, sauf si elle arrive à désunir, si vous voulez, entre population et résistance. Mais cet objectif n'est pas acquis parce que la population de Gaza, on a vu les enfants hier en train de fêter le mois de Ramadan, on a vu les prières des Gazaouis pour la prière de la première nuit de Ramadan. Donc les gens à l'intérieur même de Gaza qui subissent la guerre, qui subissent les actes lâches et criminels de l'entité sioniste, ils sont forts de l'intérieur, mais aussi ils sont unis face à ces massacres. Donc au niveau de la population de Gaza, tous ces massacres, tout ce blocus anti-humain ne fait que mettre en place plus de fervescence dans la résistance palestinienne, mais surtout lorsqu'on a écouté M. Hani hier et Abu Obeida avant lui dans leur discours, on voit très très bien que la résistance palestinienne, c'est elle qui mène la guerre de tout l'axe de la résistance. Le drapeau de l'axe de la résistance aujourd'hui, c'est le drapeau palestinien. Le leader de l'axe de la résistance aujourd'hui, il est à Gaza. Donc ça, c'est un changement global. Il y a deux changements, en fait. Il y a le fait que la Palestine, la résistance palestinienne, est devenue leader de l'axe de la résistance dans toute la région. Deuxièmement, le changement radical de l'opinion publique européenne et américaine. Et ça, c'est une nouvelle victoire. Samedi, il y avait des milliers de Français et de Françaises qui soutiennent la population de Gaza, qui demandent l'arrêt de cette guerre, qui soutiennent la résistance palestinienne. Le drapeau palestinien est devenu le drapeau de la liberté. Et ça, c'est un événement historique. Ce n'est pas simplement la question palestinienne, elle n'est pas une question purement palestinienne, elle n'est pas une question arabe, elle n'est plus une question musulmane, c'est une question de l'humanité tout entière. Car Gaza, demain, elle va être meilleure. On va reconstruire Gaza. Mais est-ce qu'on va reconstruire l'état du monde? C'est-à-dire, est-ce que le monde qui a accepté qu'on massacre des enfants, des femmes, qu'on détruit des mosquées, des églises, des hôpitaux, qu'on arrive à affamer des enfants, est-ce que ce monde-là, l'âme humanitaire, l'humanisme dans le monde, il n'a pas pris un coup? Si, il a pris un grand coup. Donc, aujourd'hui, Gaza nous montre, si vous voulez, la voie de l'indépendance, pas simplement pour la Palestine, mais pour le monde entier. Et donc, c'est un changement radical, comme Mme Medani a l'a précisé, pour l'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Il y a aussi le Brésil, il y a tous les pays de l'Amérique latine, il y a des pays africains. Il y a des personnalités françaises, européennes, britanniques, allemandes, américaines, canadiennes, australiennes. Aujourd'hui, la cause palestinienne, c'est la cause du monde entier.
Merci, Monsieur Amroudi. Madame Midani, alors on parlait, ça va être la dernière question de ce débat. Est-ce que, parce qu'il y a des craintes de certaines personnes, disent que ce fameux port pourrait cacher un plus gros problème sur la question palestinienne, puisqu'on sait que le gaz palestinien est la chose qui vise l'entité sioniste, donc le gaz de Gaza, hein, il se pourrait que ces fameux ports puissent cacher donc une sous-traitance de ce gaz, une possibilité sur le du long terme à faire ainsi. Vous l'avez vu vous-même en Syrie, puis c'est ce qui se passe en Syrie, le vol du pétrole et du blé. Est-ce qu'on peut donc se méfier de cette aide humanitaire occidentale, Madame Midani? Et c'est dans quelques minutes, on arrête le débat.
C'est une solution qui est complètement pernicieuse, qui vise effectivement à occuper la côte de Gaza, à faire arriver aussi des milliers de soldats américains. Ils l'ont dit très clairement, il faut un millier de soldats pour construire. Deuxièmement, c'est mettre la main, c'est une réoccupation de Gaza par les Américains et les Israéliens. C'est aussi, ils visent, il faut le savoir, la côte ou au large de Gaza, il y a de grandes quantités de pétrole et de gaz aussi qui sont visés par cette solution, et aussi donc par les Israéliens et par les Américains. Donc tout cela, c'est vraiment un projet complètement colonisateur à nouveau, qui vise à contourner la libération, et qui vise à contourner, sous des apparences d'aide alimentaire et humanitaire, qui vise à contourner tous les pays de la région.
Merci, Madame Milani. On doit conclure, malheureusement.
La résistance vaincra quand même.
C'est ce qu'on espère tous. Ça explique également la réaction récente du gouvernement chinois, qui a beaucoup bougé, qui a également changé également son discours, qui est devenu beaucoup plus direct. Ça sera certainement un autre sujet de débat ici sur les plateaux de Presse TV. Madame Midani, Monsieur Amrouni, ravi toujours de pouvoir avoir votre expertise sur les plateaux de Presse TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis à nos chers auditeurs, téléspectateurs, merci de nous regarder. N'hésitez pas à partager, voir, revoir nos vidéos et nos débats, nos programmations sur notre site internet ou encore nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet de débat. Au revoir et à bientôt.
Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que la résistance et la fermeté du peuple palestinien dans la bande de Gaza assiégée mettraient le régime sioniste à genoux. L'Ayatollah Khamenei a fait ses remarques mardi 12 mars, au premier jour du mois de Béni Ramadan, lors d'une réunion avec des récitants et des mémorisateurs du Coran. Aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza est le summum du crime, de la méchanceté et de la brutalité, a déclaré le leader de la révolution islamique en évoquant le 158e jour de la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza. La résistance palestinienne est toujours aussi forte et mettra les sionistes à genoux, a-t-il souligné. Certains pays musulmans, a déclaré le leader de la révolution islamique, prennent parti pour le régime israélien dans son agression brutale. Dans le monde musulman, certains gouvernements aident les ennemis du peuple palestinien opprimé. Si Dieu le veut, ils verront le châtiment pour cette perfidie. Le mois sacré de Ramadan a commencé lundi dans la bande de Gaza, avec une population d'environ 2,3 millions d'habitants. Le territoire est sous les bombardements incessants du régime occupant depuis plus de 5 mois. Israël a rejeté plusieurs offres de la communauté internationale, d'organisations et de groupes de défense des droits de l'homme, pour qu'une trêve humanitaire entre en vigueur avant le mois sacré de Ramadan. Le régime a tué plus de 31 000 Palestiniens et en a blessé plus de 712 000. Il a également imposé un siège complet sur le territoire, coupant le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau aux Palestiniens qui y vivent. Les forces navales iraniennes, russes et chinoises ont lancé un exercice conjoint dans le golfe d'Oman dans un contexte de tension accrue dans la région à cause de la guerre à Gaza. Les exercices maritimes baptisés « Ceinture de sécurité maritime 2024 » ont débuté mardi et impliqueraient plus de 20 navires, navires de soutien, bateaux de combat, hélicoptères navals des trois pays. L'attaché de presse des exercices conjoints a affirmé dans un communiqué que le croiseur lance-missile russe Vairak et la frégate Maréchal Chapechnikov participeraient aux exercices conjoints aux côtés du destroyer lance-missile chinois Urumqi et de la frégate lance-missile Linyi, ainsi que de 10 navires de guerre iraniens. Le porte-parole de l'exercice, Mustafa Tajedini, indiquait que les manœuvres se dérouleraient sur une zone vaste de 6 600 milles marins dans le nord de l'océan Indien. L'objectif de l'exercice est de renforcer la sécurité du commerce maritime international en luttant contre la piraterie et le terrorisme maritime, entre autres. L'exercice militaire conjoint de mardi, le cinquième entre ces trois pays au cours de ces dernières années, a lieu au milieu de la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza. L'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, Oman, le Pakistan et l'Afrique du Sud sont des observateurs de l'exercice. L'UNICEF a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme face à l'augmentation du nombre de décès d'enfants et de bébés dans la bande de Gaza, en raison de la famine et de la déshydratation. Les mots n'en suffisent pas à décrire les conditions désastreuses des enfants à Gaza et leur faim. C'est ce qu'a déclaré mardi, 12 mars, le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, au 158e jour de la guerre à Gaza. Le responsable onusien a appelé à la fin de la guerre à Gaza et du cauchemar des habitants de la bande de Gaza, avertissant que les enfants constituent le groupe le plus vulnérable face à la famine et à la malnutrition dans cette enclave. L'UNICEF a déclaré dans un post publié sur le compte de l'organisation sur la plateforme X que le coût de cette violence pour les enfants et leur communauté à Gaza sera supporté pour les générations à venir. L'organisation onusienne a souligné que même les guerres ont des règles et aucun enfant ne devrait être privé des services de base et de l'aide humanitaire, affirmant en conclusion que la seule solution est un cessez-le-feu immédiat. Jens Lark, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, estime que le début de la mort d'enfants à cause de la famine constitue un avertissement sans précédent. Plus tôt, dans un communiqué, l'UNICEF avait déclaré que plus de 80% des enfants de la bande au Gaza souffrent d'une pauvreté alimentaire extrême, avertissant que l'enclave s'était transformée en un cimetière pour des milliers d'enfants et un enfer pour tous les autres. Un autre porte-parole de l'UNICEF a récemment déploré, lors d'une conférence de presse à Genève, que des milliers d'enfants aient perdu la vie dans la guerre à Gaza. Outre les bombes, les roquettes et les tirs, les enfants de Gaza sont particulièrement menacés par des conditions de vie catastrophiques, avait-il mis en garde. Le manque d'eau et de nourriture, les traumatismes psychologiques et l'absence de soins médicaux sont d'autres raisons du décès des enfants. Selon les dernières statistiques annoncées par le ministère palestinien de la Santé, deux enfants palestiniens sont morts lundi à cause de la malnutrition et du manque de fournitures médicales dans le nord de la bande de Gaza. Pourtant, le bilan de morts dû à la faim dans la bande au premier jour du Ramadan a 27 décès. Bien entendu, cette statistique ne concerne pas les personnes hospitalisées. La famine dans le nord de Gaza a atteint un niveau meurtrier et un grand nombre d'habitants de cette zone, en particulier dans les parties septentrionales, meurent silencieusement et progressivement de malnutrition et de déshydratation. les forces israéliennes se sont de nouveau attaquées à un groupe de Palestiniens lors d'une distribution d'aide humanitaire et en ont tué plusieurs. Les médias palestiniens ont rapporté mardi matin, 12 mars, que les forces du régime sioniste ont attaqué un groupe de Gazaouis qui attendait pour recevoir de l'aide humanitaire et de la nourriture. Selon les sources palestiniennes, cette attaque a eu lieu mardi à l'aube sur la place de Kuwait dans la ville de Gaza. Au moins 9 Palestiniens ont été tués lors de cette attaque et environ 20 autres ont été blessés, qui ont été transférés par les équipes de secours au complexe médical Al-Shifa dans la bande de Gaza. Il y a quelques semaines, l'armée israélienne avait, dans un geste similaire, attaqué un groupe de citoyens palestiniens rassemblés pour recevoir de la farine. Suite à cette attaque, plus de 100 Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé mardi que le bilan de la guerre israélienne s'est alourdi à 31 184 morts et 72 889 blessés depuis le 7 octobre 2023. 72% des victimes de l'agression israélienne contre Gaza sont des enfants et des femmes, alors que le bilan des morts dû à la malnutrition et à la déshydratation s'est élevé à 27 au premier jour du Ramadan, a affirmé le communiqué. En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, les habitants de Gaza sont au bord de la famine, compte tenu d'une grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant. Outre le déplacement d'environ 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis 17 ans. Après des inspections strictes des convois alimentaires, l'armée israélienne autorise à peine l'entrée de ces camions dans la bande de Gaza. Ces camions ne sont pas autorisés à se rendre au nord de la bande. Dans certains cas, les colons israéliens se rassemblent à proximité de l'enclave et ne permettent pas aux convois transportant de la nourriture d'entrer dans la zone. La guerre israélienne contre Gaza a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de la bande assiégée, dans un contexte de grave pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon l'Organisation des Nations Unies. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir. Et passez une très bonne semaine. Thank you.